bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. Fréquence d'Outre-Tombe avec David Rocketship. Je suis avec toi pour la prochaine demi-heure, la seule source de frissons sur le FM, l'émission où on explique l'inexpliqué, où on explore l'inexploré. Vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586 si vous avez un témoignage paranormal à me partager. Vous pouvez aussi m'écrire à outretombe.ckrl@gmail.com. Et on commence cette édition avec justement un courriel que j'ai reçu dans la dernière semaine. J'ai René qui nous écrit de Saint-Sauveur. Lui aime nous écouter de ce que je lis dans la fenêtre de son toit mansard dans Saint-Sauveur sur sa petite radio transistor. Alors très cool. Donc René, lui, nous écrit son témoignage, nous écrit ceci. Quand j'étais jeune, mon petit frère et moi allions souvent jouer chez mes cousins qui étaient aussi nos voisins. Oui, mon père et son frère avaient acheté deux maisons, une à côté de l'autre, à Val-Bélair. Donc, avec mon frère et mes cousins, on jouait souvent dans le sous-sol. Je ne l'ai jamais aimé, ce sous-sol. Je le trouvais lugubre et dès que je m'y retrouvais seul, j'avais toujours l'impression que quelqu'un d'autre s'y cachait. Je sentais une présence. Quand je disais ça à mes cousins, ils me disaient que plusieurs années auparavant, un jeune garçon qui habitait cette maison était mort des complications d'une pneumonie et que, comme c'était l'hiver, sa famille l'avait enterré dans le sous-sol. Ses parents seraient tombés sur le cercueil quand ils ont creusé pour finir le sous-sol après avoir acheté la maison. À ce jour, je ne sais toujours pas encore si cette histoire était vraie. Mais je me souviens d'un événement en particulier. On avait passé la matinée à jouer dans le fameux sous-sol, mon frère, mes cousins et moi. Puis on était tous à l'extérieur sur le point d'aller chez d'autres enfants au bout de la rue. Mon frère a décidé de retourner chez nous, la maison voisine. Comme on était sur le départ, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma casquette dans le sous-sol. J'y suis donc retourné, tout seul. Une fois en bas, j'ai cru voir quelque chose bouger du coin de l'œil ou quelqu'un. J'avais vraiment peur. J'ai agrippé ma casquette et suis retourné en haut en quatrième vitesse, avec l'impression qu'on me suivait. J'ai traversé la maison à la course pour aller rejoindre mes cousins qui m'attendaient dehors. La porte était ouverte. Je les voyais, ils me voyaient courir vers eux. Quand je suis enfin sorti de la maison, ils m'ont regardé d'un drôle d'air. Ton frère est pas avec toi? Ben non, il est retourné à la maison. Puis, mon cousin a dit, « T'es sûr? J'aurais pourtant juré qu'il était juste là, derrière toi, quand tu sortais de la maison. » Alors, merci beaucoup à René de Saint-Sauveur de nous avoir écrit. J'espère que t'es à l'écoute. Et comme je vous parle... Oh, j'ai le téléphone qui sonne. On a déjà un appel. Donnez-moi une seconde, je transfère ça en onde. Bonsoir, merci d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe. À qui je parle?
Salut, moi c'est Cathy.
Salut Cathy, tu nous appelles de quel endroit, Cathy?
Là, j'habite à Québec, mais je viens de la région d'Ottawa.
Ah, cool, Ottawa. Puis, j'imagine que tu as quelque chose à nous raconter. Est-ce que ça a rapport à Ottawa?
En fait, Toronto, parce que moi, j'ai étudié à l'Université de Toronto pour mon bac en études nationales. Puis, il y a du coup de bizarre qui s'est passé sur le campus, là, fait que je me suis dit que je te le raconterais, là.
Ah, cool. Ben, je suis impatient d'entendre ça. Vas-y.
OK. Ben, c'est ça. Il y a quelques années, j'étudiais pour mon bac en études nationales à l'Université de Toronto. Puis, tu sais, les cours, bon, les plus tard, ils finissent à 9h le soir. Mais, tu sais, en automne, le soleil se couche quand même tôt. Là, fait que j'aimais pas vraiment ça, traverser le campus tout seul le soir. Fait que je me dépêchais pour retourner à résidence. Puis, je passais tout le temps en face de... The Soldier's Tower, la tour des soldats, comme en honneur aux soldats de la Première Guerre mondiale. Puis, il y a un soir que je me dépêchais, il faisait vraiment pas beau, là, il ventait, puis il faisait frais, tu sais, vraiment une soirée d'automne, là. Puis, je passais à côté de la tour, puis j'ai entendu comme quelqu'un tomber en bas de la tour en criant « Ah! » Puis, ça m'a vraiment glacé le sang, là. J'ai fait comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai essayé de regarder dans les airs, puis, tu sais, j'ai pas entendu de bruit comme de quelqu'un qui touche au sol, on va dire. Mais j'ai vraiment entendu comme le bruit de quelqu'un qui tombait en criant, là. Fait que j'ai vraiment fait le tour de la tour. Je me suis dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui tombe en bas. Il faut que je trouve cette personne-là, tu sais, elle va être blessée. Puis j'étais en panique, je courais autour de la tour, j'essayais de trouver, puis je criais, y a-t-il quelqu'un, tu sais. Et j'ai trouvé personne. Puis là, en panique, j'ai dit, là, faut peut-être que j'appelle la police, tu sais, peut-être qu'il est tombé comme dans des buissons, puis je les vois pas, tu sais, ils sont peut-être perdu connaissance, tu sais. Mais là, j'avais pas mon cellulaire, il était resté à résidence. Fait que là, je suis partie à la course jusqu'à ma résidence, j'ai cogné à la porte de mes collègues, tu sais, de mes collègues, j'ai dit, là, il y a quelqu'un qui est tombé en bas de la tour. Faut qu'on appelle la police, tu sais, j'arrive pas à le trouver. Puis mes colocs m'ont dit, non, attends un peu, là. Là, tu parles de la tour des soldats, là. Je dis, ben oui, là, passe-moi ton téléphone, là. Tu sais, ouais, faut que j'appelle. Puis ils ont dit, non, appelle pas la police, là. Ils sont partis, hein. J'étais comme, ben là, c'est pas drôle, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui est tombé en bas, genre, il va être blessé, puis, tu sais, il faut leur porter secours, à ces personnes-là, là. Puis ils m'ont dit, non, mais la tour des soldats, qui a été construit dans les années 20, tu sais, bon, pour les soldats de la Première Guerre mondiale, mais paraît que c'est super connu, là, des étudiants qui vont là-bas, tu sais, l'Université de Toronto, mais faut croire que moi, j'étais pas au courant, là, qu'il y aurait un gardien qui serait tombé en bas de la tour dans les années 30 pendant qu'il nettoyait la cloche, puis qu'il en serait décédé, puis que ça arriverait souvent, puis peut-être même qu'il y en a certains qui pensent qu'ils s'amuseraient à faire peur aux nouveaux étudiants qui sont pas du coin, tu sais, c'est ça, en retombant de la tour, en faisant peur comme aux étudiants, là, fait qu'ils disaient, non, mais appelle pas la police, là, c'est un fantôme, c'était pas vrai. Mais, en tout cas, fait que moi, j'ai jamais repassé à côté de la tour pour retourner à ma résidence, parce que ça me faisait trop peur, mais ils ont jamais trouvé personne, tu sais, il y avait rien immédiat le lendemain, je suis retournée sur place, puis il y avait pas. Tu sais, le lendemain directement, le lendemain matin, j'étais allée voir avec une amie, puis tu sais, il y avait rien, il n'y avait pas de trace de rien, d'impact, tout ça. Fait que j'ai vraiment évité pour le reste de mes études à l'Université de Toronto, ce coin-là du campus, parce que ça faisait trop peur, là. C'était juste trop bizarre, là. Fait que c'est ça mon histoire.
Cool, c'est une bonne histoire. Puis pendant que tu nous parles, j'ai fait une petite recherche en hypocrite. Puis oui, effectivement, c'est documenté le cas du gardien de la Soldier's Tower qui serait tombé dans les années 30. En effet, là, il y a plusieurs personnes qui disent avoir vu ou entendu justement tomber en bas de la tour.
Fait que j'étais pas folle.
Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé, Cathy. C'est très sympa de ta part. Hein.
Merci, bye.
Bye, bonne soirée. On remercie donc Cathy de nous avoir appelés. Et c'est l'heure tant attendue de notre histoire de la semaine. Cette semaine, on suit cinq campeurs qui vont faire une rencontre impromptue avec une créature. Vous êtes sur Fréquence d'Outre-Tombe à CKRL 89.1. Cette histoire-là se passe à la fin des années 90. C'est l'histoire de cinq amis qui décident d'aller passer une fin de semaine dans un genre de camping improvisé sur un terrain abandonné. On est dans le coin du lac Etchemin. Steve, qui se fait un peu le leader de cette gang-là, lui vient de ce coin-là, lac Etchemin, puis connaît un terrain abandonné. Il connaît de loin là, le propriétaire d'un ancien camping qui est abandonné. C'est sur le bord du lac à Roche, donc pas loin du lac Etchemin, justement. Il sait que ce propriétaire-là a une parcelle de forêt sur le bord du lac, puis l'ancien, justement, terrain de camping. Le terrain de camping, lui, a été désaffecté, a été abandonné une quinzaine d'années avant, parce qu'un certain été, il y avait eu plusieurs disparitions, justement, sur le bord du lac, dans la forêt. Puis ça s'était soldé cet été-là par la malheureuse disparition d'une fillette. Probablement qu'elle a été attaquée par un chien. On a retrouvé ses restes sur 2-3 km carrés là, dans la forêt tout autour du camping. Donc, c'est ça qui a nui à la réputation de ce terrain de camping-là qui est maintenant abandonné. Donc, lui, Steve, il se dit, hey, c'est une bonne idée. On va pouvoir y aller, les cinq. On va avoir la paix. On sait qu'il n'y aura personne sur le terrain. On va avoir la forêt à nous. On va avoir le lac. Donc, on va pouvoir bien profiter. Fait qu'il réussit à convaincre quatre de ses amis, donc son cinq. Il embarque tout le monde dans son vieux Pontiac 67, puis ils s'en vont justement dans la forêt. un vendredi soir après leur semaine de travail à tous. Ils sont tous dans le début de la vingtaine, de ce que j'ai lu, entre 20 et 25 ans pour dans tous les cas. Donc ils roulent, longent l'ancien terrain de camping, débordent un peu, s'en vont dans la forêt. C'est une forêt qui est très épaisse. Une forêt de cèdres, d'épinettes, une forêt qui est lourde. L'histoire se passe pas longtemps après la crise du verglas. C'est que les arbres sont tous arqués, tous cambrés. Ça donne une allure lugubre à la forêt. C'est un vendredi après-midi de la mi-août, mais il fait déjà sombre. C'est plutôt brumeux ce soir-là. Ils ont mal choisi leur météo. Là. Les pauvres, il y a des épaisses couches de brouillard qui couvrent la forêt. Donc, ils décident de commencer leur soirée par simplement se faire un feu pour se faire à souper. Le brouillard est très épais, comme je vous le disais. Il y a même une pluie fine, un petit crachin qui les lâche pas. Donc, eux s'en veulent un peu. Ils disent, bon, ça augure bien. On espère qu'il va avoir du beau temps pour le reste de la fin de semaine. Donc, passent leur soirée à prendre un verre, se racontent des histoires sur le bord du feu. Puis, en soirée, quand le soleil est couché, c'est la pleine lune qui se lève au ciel, puis ils entendent au loin des hurlements. Ils savent qu'il y a des coyotes dans cette forêt-là. Ça les inquiète pas outre mesure. On sait que les coyotes s'en prennent que rarement aux humains. Puis de toute façon, ils sont au loin. Puis en soirée, ils finissent par se mettre au lit. Ils ont monté deux tentes, donc ils sont cinq, ils se séparent en deux tentes. Puis comme ils sont en train de s'installer, ils entendent des bruits de pas tout près. Tout près d'eux, autour de la tente. Puis ils peuvent entendre des grognements. Donc, ils savent que les coyotes sont probablement tout près. Ariane demande à Steve, « Steve, penses-tu qu'il peut avoir quelqu'un? Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui peut être ici? » Puis Steve dit, « Non, non, oublie ça, là, c'est fermé, ce terrain-là, c'est abandonné, il n'y a personne qui vient s'aventurer ici pour rien, là, ça, c'est sûrement un animal, quelque chose. » Puis là, il continue d'entendre grogner, donc là, c'est Steve qui dit, « Ben oui, les coyotes sont là, sont tout près, c'est pas grave, on est dans nos tentes, on est correct, il n'y a pas de danger. » Puis là, Steve demande à Mathieu, « La bouffe, t'as-tu laissé de la bouffe dehors? C'est peut-être ça qui les a attirés, je sais pas. » Puis là, Mathieu lui dit, « Merde, oui, c'est vrai, j'ai laissé un reste de smoke meat sur le bord du feu, j'avais un reste de viande qui est resté là. » Donc Steve lui répond, « Ben bravo, hein, c'est ça qui les a attirés, maintenant on a des coyotes autour de la tente. » Puis comme ils sont en train de se chicaner, les coyotes sont toujours là, à rôder. Puis ils entendent, au loin, pas très loin, à une centaine de mètres, des gros bruits de moteurs qui s'en viennent vers la forêt. Donc là, ils s'étirent le cou. Steve s'étire le cou, sort la tête de la tente. Il dit, ah, merde, pas eux autres. Là, il voit une genre de gang dans les gros pick-up jackés. Ils sont deux, trois pick-up. Puis ça crie, puis ça s'en va vers la forêt. Là, c'est Steve, il dit, ah, merde, c'est les Jalbert du fond du rang. Il dit, c'est des gens de redneck, là, des estis de vendeurs de poudre à 5 piastres. Il dit, en tout cas, il dit, écoutez, mettons que c'est mieux qu'ils sachent pas qu'on est là, c'est mieux qu'ils nous voient pas. Ils peuvent être du genre à faire du trouble juste pour faire du trouble. Fait que les pick-up passent pas loin d'eux, mais les dépassent, les voient pas. Bonne nouvelle. Puis ils s'en vont un peu plus loin, dans le fond de la forêt. Puis on les entend, là, ça crie, ça bouille, ça tire la carabine même, là, la musique est forte. Puis là, tout le monde sont dans leur tente, puis ils se disent, hey, ben bravo, hein, pour le beau week-end de camping isolé en forêt. La bonne nouvelle, c'est que ça semble avoir fait peur aux coyotes. On les entend plus. Puis là, Steve, il se dit, écoutez, il dit, tu sais, cette gang-là, là, j'y truste pas. Il dit, j'aimerais mieux qu'on se relaye. Qu'on passe une petite heure chacun de notre tour à faire une petite veille là, à l'extérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui vient virer, qui vient soit voler nos affaires ou soit saboter le char. Et ça pourrait être leur genre là. Fait qu'ils décident de se relayer. chacun son tour. Mathieu dit ok, pas de trouble, je vais commencer. Ça fait qu'il s'en va dehors pendant une heure. Tout le monde réussit à s'endormir. Lui veille. Il les entend au loin. Ça crie, ça tire du gun. Puis après une heure, il vient se coucher. Il dit ok, Yannick, c'est à ton tour. Va veiller, va faire la veille. Ça fait qu'Yannick sort, commence à faire le guet. Tout ça, tout le monde se rendort. La nuit se déroule comme ça. Puis le lendemain matin, on se réveille. La gang qui était venue faire le party la veille en pick-up, et on a l'air d'être plus là. Là, on sort des tentes. Le soleil s'est levé, mais il fait encore. Il y a encore beaucoup de brouillard, puis le ciel est très très gris. Puis là, on se regarde. Mathieu est là, Steve est là, Ariane est là, Isabelle est là. Mais hein, il est où Yannick? Là, on trouve pas Yannick. Il est peut-être parti aux toilettes, il est peut-être parti. Je sais pas, là, on trouve pas Yannick. Nulle part, on va laisser quelques minutes, il est peut-être juste parti pisser, là, si ça se trouve. Puis après plusieurs minutes, on voit jamais Yannick, on le trouve pas. Donc, Steve puis Mathieu décident de faire une petite recherche, essayer d'aller fouiller autour, voir Yannick, t'es où? Puis il voit des traces, pas loin d'où il faisait le guet. Puis là, ça a l'air d'être des traces, ou plutôt comme la terre est retournée, puis les feuilles mortes ont comme été piétinées. T'sais, ils peuvent voir qu'il y a eu du mouvement. C'est qu'ils suivent cette direction-là. Et puis là, de loin, ils peuvent voir ce qui leur semble être Yannick, couché là dans la vase sur le bord du lac. Ils le reconnaissent de loin, ils reconnaissent ses jeans et sa chemise carottée bleue. Ses vêtements sont déchirés, il y a plein de traces de graphing pitissant après les jambes. Il a l'air inconscient sur le cou. Là, les gars vont le voir. Hey, Yannick, t'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? Là, il se réveille, il se remet tranquillement, il regarde, il se lève la tête, il regarde. Il a l'air un peu perdu, confus, à pas trop savoir ce qu'il fait là et ce qui s'est passé. Il dit « Yannick, t'es-tu correct? Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit « Je me souviens pas de rien. » Il dit « Là, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. » Il le ramène avec lui jusqu'au chalet. Il se souvient pas de ce qui s'est passé. Des traces et des graphings sur lui. Ses pantalons sont tout déchirés. Ils l'ont retrouvé 500 mètres plus loin dans la forêt, mais il se souvient pas de rien. Donc ils se disent « Écoute, ça n'a pas d'allure, on va amener Yannick à l'hôpital, on va aller le faire checker, là, ça n'a pas de sens. » Ça fait qu'ils sautent, Mathieu, Yannick, sautent dans le Pontiac 77, le font mine de partir, puis quand ils ont fait à peu près 200-300 mètres, il faut qu'ils traversent un bon vallon, là, il y a une grosse montée, il faut qu'ils traversent comme un petit flanc de montagne pour continuer dans le chemin. Puis là, la voiture a de la misère. Puis la boucane blanche se met à sortir. Et merde, je viens de sauter probablement une hausse ou le radiateur, je sais pas quoi. On n'est pas capable de continuer sur cette route-là. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils mettent la voiture sur le neutre, redescendre la côte. Puis là, ils sont obligés de marcher pour se rendre jusqu'au camping. Avec Yannick, parce que lui est trop faible pour marcher, pour sortir du site. Donc, Steve dit « Écoutez, les gars, je vais partir à pied, je vais aller appeler, puis je vais nous appeler un remorqueur ou quelque chose, quelqu'un qui puisse venir nous chercher, tu sais. » C'est que Mathieu part. Là, sont les quatre sur le terrain de camping. Ben, sur le terrain de camping abandonné. En fait, ils sont dans le milieu de la forêt, là, où ils ont campé la veille. Puis la journée s'annonce encore mal. Il fait froid, c'est brumeux. Puis là, il y a Yannick qui est blessé, magané. Puis ça prend un genre de 2h30-3h avant que Steve finalement revienne jusqu'au terrain. Il dit « Hey les gars, j'ai été capable d'arrêter au dépanneur, j'ai appelé le remorqueur, là, c'est quelqu'un que je connais dans le village. » Il dit « Mais il peut pas venir avant lundi matin. » Ça fait que là, faut comme attendre jusqu'à lundi matin. Ariane et Isabelle, eux, pendant ce temps-là, ont regardé les blessures de Yannick comme il faut. Il y avait une petite trousse de premiers soins. Bon, ils ont été capables d'y faire un petit bandage. Ils disent, écoute, ces blessures sont quand même pas majeures, là. On est capable d'attendre jusqu'à lundi. Donc, ils continuent de passer leur journée là. Il y en a qui vont se baigner dans le lac quand même dans la journée, mais l'eau est frette, puis c'est plate, puis c'est pas le fun. Donc, le soir arrive, ben pareil, ils refont un petit souper, puis ils se mettent de la viande sur le feu. Puis en soirée, alors que le soleil est couché, ils peuvent entendre au loin les coyotes. Ah! sont au loin pour l'instant, mais plus ça va, plus ils entendent se rapprocher, ils entendent les grognements, ils entendent les pas. Puis ils disent « Merde, ils sont encore tout près, ils sont tout autour de la tente. » Puis c'est là qu'encore une fois, on entend, à 200-300 mètres plus loin, les gros maudits pick-up jackés des Jalbert qui reviennent. Le Steve, même chose. « Hey, les gars, restez low profile, éteignez le feu. Ils jouent pas qu'ils nous voient, eux autres. Ils pourraient nous faire du trouble juste pour le fun d'en faire. » Puis là, ils entendent au loin. Ça crie, il y a de la musique. Ils tirent de la carabine sur on sait pas quoi. Peut-être qu'ils chassent au jack. Donc Steve, pareil, il dit « Là, écoute, il dit je sais que c'est dull, mais je tiens à ce qu'on refasse encore une veille, à ce qu'il y ait toujours quelqu'un debout. » Donc c'est comme ça que ça se passe, tout le monde s'en va dormir. Au début, c'est Steve lui-même qui reste debout pour veiller. Puis dans le milieu de la nuit, alors qu'on dort, tout le monde dort, on entend au loin des cris. On entend les Jalbert, cette gang de redneck là-bas qui sont 400-500 mètres plus loin dans la forêt. Ça crie, ça se débat, on entend des coups de fusil. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de se faire attaquer. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont peut-être vu un ours, ils ont peut-être vu des loups, je sais pas quoi. Puis là, ils font le tour de la tente. Steve sort, Mathieu sort, et Ariane, Isabelle se regardent. Yannick est pas là. Puis là, on peut entendre, ça crie là-bas, ça en train de se faire massacrer. Puis on n'entend plus aucun son. Soit ils sont tous tués, soit ils sont tous morts. Mais là, on peut entendre au loin un grognement. Plus fort que le grognement des coyotes. Plus lourd que le pas d'un ours. Puis ça marche dans la forêt. Il fait noir, tout le monde a éteint les lumières pour pas se faire voir. Mais on peut entendre le son d'une créature énorme, pesante, qui marche vers eux, qui marche vers leur campement. Puis là, Steve, il dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Si Yannick est là, il dit, faut que j'aille voir si. On peut pas le laisser de même. Fait qu'il marche en direction des pas, il part. Yannick, t'es-tu là? Viens-t'en. Puis là, de la tente, on peut entendre Steve qui crie. Puis un grognement. Puis on peut entendre d'où on se tient le son de la créature infernale qui déchire la chair. Qui mord Steve. Puis Steve qui crie. Sauvez-vous, allez-vous-en! Et puis quand la créature en a fini avec Steve, quand Steve a poussé son dernier soupir, on peut l'entendre encore grogner qu'elle s'en vient dans notre direction. Ses pas sont lourds. Boum, boum, boum. Son grognement est fort. Et puis finalement, elle arrive à la hauteur des campeurs. Et puis on peut apercevoir la créature qui ressemble à un ours ou un loup à première vue, mais qui fait 8 pieds de haut, 4 pieds de large, probablement plus lourd que n'importe quel de ces gros pick-up jackets-là. Puis elle regarde le groupe de campeurs avec ses yeux caverneux. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'on est capable de déceler que la créature en question semble avoir déjà eu des vêtements sur le dos dont il reste que des lambeaux, puis on peut reconnaître les jeans puis la chemise carottée bleue de Yannick. Alors voilà, c'est déjà tout pour Fréquence d'Outre-Tombe. J'espère que vous avez apprécié vos frissons. On se quitte sur une pièce musicale des Horrors, groupe anglais actif depuis 2005. On écoute Death at the Chapel, disponible en pièce bonus sur leur premier album, Strange House.
Jimmy, just six goggles as the fog begins to thicken. And the shadow of the chapel leads to Jimmy room to cover. And pushing down on the accelerator. Ultimate for Jimmy. Sucking down as the young man flew over the bonnets. He's watching the John and Betty, screaming, no one will ever love you. To learn the John and Betty, and the realization hit them like a fist, like this.
Turning around to face the gaggle behind him. Ah!